tandis qu'il prépare la caméra. Et si quelqu'un veut savoir d'où j'ai tiré la plupart des choses que je vais dire, c'est une lettre qu'avait écrite, ça fait déjà quelques années, le pape Benoît XVI, qui s'appelait « Sauver en espérance », ou en latin « Spes salvi ». Voilà, je vous dis ça, c'est pas encore le début de la conférence, mais comme ça on prend un petit peu de temps et de référence pour savoir un peu ce qu'on va essayer d'illuminer cet après-midi, ce soir. Ça va. Alors, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Quand Monseigneur m'a dit qu'il allait parler sur l'écolier de la miséricorde dans l'évangile de Saint-Luc, moi, en essayant de demander au Seigneur un peu comment je pouvais coopérer dans ce chemin, et il m'est venu dans l'esprit d'approfondir la vertu théologale de l'espérance. Ne vous inquiétez pas, ça va être assez terre à terre, vous verrez. Mais c'est quelque chose de très important, vous verrez pourquoi. En réalité, ces merveilles dont Monseigneur nous parlait ce matin et nous parlera encore demain, sont des merveilles qui sont déjà présentes, mais que trop souvent, on n'a pas les mots d'emploi pour que dans notre cœur se passe comme l'Évangile dit. Sachez, il était dans un sycomore au fruit fade, non? C'était ça ce matin, non? Ils étaient fades, le fruit, non? C'est-à-dire les figues, non? Et après, il s'est fait inviter, ah non, c'est Jésus qui s'invite chez lui, et donc du coup, il y a une merveille, il commence à trouver la joie de donner. Ah mais ça lui arrive à sachet, mais à moi. Il y a une veuve, Naïm, Jésus touche, il y a mort, se relève. Mais le mort que c'est mon âme se relève rien qu'en entendant ça. Vous voyez? Il y a une pécheresse qu'on lui a pardonné beaucoup parce que sa gloire, elle employait pour sécher, non? La gloire, non? De la femme, c'est les cheveux, non? Et la gloire de l'homme, c'est la barbe, non? Voilà. Alors, elle l'employait pour quoi faire? Pour montrer tout l'amour qu'elle avait pour Jésus parce que elle avait compris que Jésus lui avait beaucoup pardonné. Comment se fait-il que dans notre vie, nous accueillons le pardon comme l'a fait cette femme? Parce que la miséricorde y est, la surabondance de l'amour y est, le mystère d'un Dieu qui nous a unis à lui pour que de situations difficiles jaillisse la vie y est. Mais souvent, on ne sait pas trop comment faire pour que ces merveilles nous rejoignent. Et c'est justement la vertu de l'espérance bien comprise, c'est tout le travail du pape émérite dans cette lettre qui n'a pas eu beaucoup de publicité, non? L'espérance bien comprise est justement ce mot d'emploi qui permet que ces merveilles nous rejoignent. Voyez déjà un peu pourquoi, ça c'est un peu la ligne générale, non? Et ça vous donne déjà un petit peu à comprendre les trois titres qu'on a donnés pour la conférence de tout à l'heure, pour la conférence de demain, à la même heure, je crois, à peu près, et la conférence de dimanche matin. Donc, vous allez me supporter pas mal, non? Mais il y a quelque chose qui est très importante, c'est que la façon dont nous comprenons l'espérance, c'est-à-dire, comment se fait-il que notre cœur peut progressivement se laisser envahir par cet amour qui est déjà là, mais qui souvent ne saisit pas tout mon être. Et le pape Benoît XVI, à sa façon, j'ai dit en passant que pour moi la meilleure façon de comprendre le pape François, c'est lire Benoît XVI, j'ai dit en passant. Si vous lisez l'Evangelium Gaudium, autrement dit, pape François, quand il parle de comment peut-on vivre la joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium, il dit un certain nombre de chemins qu'il dit que sont fondamentaux pour que la joie de l'Évangile nous rejoigne. Et un de ces principes, c'est que le temps est plus important que l'espace. Et quand il dit ce que le pape François dit pour ça, il renvoie à l'espé salvi. Autrement dit, comment comprenons-nous l'espérance? Et alors, ce que je me suis demandé, c'est essayer de vous donner quelques lignes de ce que le pape François nous dit, à partir de l'écriture, bien sûr, c'est la parole de Dieu, la clé de tout, mais en essayant de percevoir comment peut-il se réaliser dans notre vie cette coopération avec le cœur de Dieu pour que ces merveilles nous rejoignent, nous et les autres. Voilà, ça c'est un peu l'horizon. Parce que la nuit de Pâques, on dit, heureuse faute que nous a mérité un tel Rédempteur. Ou on dit notre phrase, avec le feu de Pâques, que c'est l'amour, souvenez-vous de Naïm, souvenez-vous des malfaiteurs, tous les trois près de l'amour ce matin, c'est collier, il faut l'avoir dans l'esprit, sinon les choses ne collent pas. Hein. Mais l'amour a été englouti dans la vie. Mais... Est-il vrai que les morts quotidiennes sont englouties dans une vie plus grande? Est-il vrai que heureuse faute que nous faisons pour nous mériter un tel Rédempteur et nous accueillons cet amour qui transforme l'amour en vie? Est-il vrai? Ah, je voudrais bien, mais parfois oui, parfois non. Voilà. C'est tous, hein, moi le premier. Hein. Mais là, c'est très important comprendre la façon dont la théologie chrétienne, la doctrine chrétienne, les saints nous ont expliqué ce que c'est que l'espérance chrétienne. Parce que quand on commence à les comprendre, on voit bien que c'est aux antipodes de quelque chose à laquelle on est trop habitué. C'est typique d'une retraite. J'ai compris qu'il faut qu'on fasse comme sachet, après faire comme la femme pécheresse, après j'ai fait comme le malfaiteur, et après j'ai fait comme être à la table de Jésus avec la parole que je mange, etc. Non? Donc cette semaine, je vais, de fois pour toutes, me placer dans ces registres. Et comme on est dans ce climat, le Sacré-Cœur d'un côté, le chemin de croix de l'autre, après les apparitions, après, voilà, il y a un climat tellement beau, et après tout ce qu'on a à côté de nous, ils croient la même chose, non? Une louange, une joie, bon, le cœur s'éponge, et on dit, ça y est, c'est fait, non? Et après on revient chez soi, et au lieu d'avoir les gens qui chantent à notre côté, parfois il y a notre mari qui nous dit, mais tu as été 3 jours de retraite, où est-il cette transformation? ou ton époux, hein, ben c'est pareil, hein, ou ton épouse, ou ton voisin, ou ton patron, qui ne chante pas des louanges de bon matin pour te dire « Fais ça !» Et alors là, non, c'est vrai, hein, si ce que nous faisons ici, c'est seulement un volontarisme, on passe à côté de la plaque. Et c'est de cela que le pape Benoît voulait nous parler. L'expérience chrétienne est aux antipodes du volontarisme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est un travail du cœur dans lequel notre vie se projette dans le temps. Je ne vais pas vous compliquer la vie. Vous verrez immédiatement que c'est beaucoup plus simple que ces phrases un peu bizarres. Hein? Autrement dit, Monseigneur Cattenau ce matin nous parlait d'être des pèlerins. C'est-à-dire des personnes qui sont en route vers. Et en étant en route vers, ils découvrent qu'ils sont accompagnés. Le pèlerinage, c'est une merveille que Dieu a toujours utilisée déjà dans l'ancienne alliance pour comprendre que les choses ne sont pas comme ça. J'ai compris, j'ai fait. Non. Nous allons au chemin de Saint-Jacques. Nous partons d'Avignon. Nous arrivons à Nîmes. Si on se fâche parce qu'on n'est pas encore à Saint-Jacques, non? Ça nous arrive trop souvent. Je suis à Nîmes. Oh, Saint-Jacques, où est-il Saint-Jacques, non? Et là, ils te disent, oui, un peu de goût encore, non? Non, c'est très important, ça. Qu'est-ce que c'est que l'espérance chrétienne? C'est que c'est en route qu'on est rejoint. C'est pour ça que Monseigneur parlait ce matin de la maison des gens de passage. En route, nous sommes rejoints. Saint Paul le dira avec une phrase que j'adore, en Philippiens 3, 17, 18, 16, 19, vous inquiétez pas, hein, à peu près, dans lequel il dit, je m'élance de tout mon être parce que je suis rejoint, saisi par le Christ Jésus. Je ne l'ai pas encore atteint pleinement, mais je m'élance de tout mon être parce que lui, en route, me rejoint. Cela n'est pas si banal que ça. Et cela nous introduit dans une structure de vie dans laquelle ce dont on parlait ce matin devient vrai, puisqu'en fait, cette miséricorde, il faut apprendre à l'accueillir en route. Apprendre à l'accueillir en route. De telle façon, et ça c'est le spécifique de l'espérance chrétienne, n'est pas volontaristement, je vais voir si ça marche. Parce que comme ça, c'est presque sûr que ça ne va pas marcher. C'est que à fur et à mesure que je m'élance vers ce que le Seigneur me montre comme promesse, je perçois des choses. Une, que je suis rejoint par lui. Et deux, que à fur et à mesure que je pose des actes en faisant confiance à ce qu'il me dit, je découvre que le plus profond de mon être commence à se révéler. Attention à ça. L'espérance ne déçoit pas, Romains 5:5, parce que à fil et à mesure que je m'oriente, je découvre pas seulement que lui m'accompagne, mais que ses actes sont pas des choses hyper difficiles, impossibles, on ne sait jamais si on arrivera. On découvre qu'on était fait pour ça. L'espérance est un égoïsme bien fait. Parce qu'à fur et à mesure que je m'oriente, je perçois pas seulement le Seigneur agissant, je perçois que mon propre être se dévoile et se réalise. Ça donne quoi? La paix. C'est bizarre, la paix. Qu'est-ce que c'est que la paix? Matthieu 11:25-30. Vous savez ce qu'il y a là-bas? Je prends la technique de mon Seigneur. Ah, oh, c'est pas possible, non? Vous connaissez pas le riz et le nom de votre quartier, non? Il faudrait connaître l'écriture de la parole de Dieu comme les rues et les noms des maisons de mon quartier. Qu'est-ce qu'il y a, Matthieu 11:25-30? C'est une phrase qu'on utilise beaucoup à Parélémonial. Ça commence, Jésus exultant de joie dans l'esprit dit, merci Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux savants, tu l'as révélé tout petit. Et après ça continue, il dit, venez à moi, vous tous qui peinez, ah, vous voyez que vous le savez, hein? Ah, ça me rassure, non? Et vous trouverez le repos. Mais comment trouve-t-on le repos? Prenez mon joug. Autrement dit, soyez mes conjoints. Ça vient de ça, hein? Conjoints sont ceux qui portent ensemble les mêmes joug. On dit comme ça, non? Ah, parce que je prononce mal, non? Ok. Conjoints. Que veut-il dire cela? Que le repos, l'espérance n'est pas seulement de voir si un jour j'arriverai. Le pape Benoît, dans cette encyclique, dit qu'on est trop habitué, même les cathos, à lire ces mots de l'espérance à la façon protestante. Et il le dit carrément, hein. Il dit, parce que souvent dans la traduction protestante, on met que l'espérance, c'est être ferme pour voir si on arrive. Et dans la traduction catholique de la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, le pape Benoît dit qu'en réalité, à fur et à mesure qu'on s'oriente vers le Seigneur, on le découvre présent, hein, et on découvre que notre propre être se dévoile en profondeur. C'est pas la même chose la carotte à laquelle on n'arrive jamais que découvrir qu'à fur et à mesure que je me mets en route, il y a quelque chose de plus profond de moi qui se dévoile. C'est pas du tout la même chose. Et connaître ça permet de bien coopérer avec le Seigneur pour accueillir la miséricorde. Vous verrez jusqu'où cela est très important, parce que à la fin de la lettre, le pape va dire des phrases qui à moi me parlent beaucoup. Il dit ce que quelque part aussi Monseigneur nous parlait ce matin autour de deux malfaiteurs à côté de la croix de Jésus. Le jugement est un lieu d'apprentissage et de croissance de l'espérance. Ça, c'est une phrase très bizarre. On la laisse en suspension et on la verra le dimanche matin si le Seigneur nous le permet, non? Autrement dit, en fait, l'espérance, c'est le chemin par lequel le Seigneur veut nous aider à découvrir que les trésors sont déjà là. Sont des trésors incroyables. Il y a un mystère, un fleuve d'amour de telle qualité que si on coopérait avec le Seigneur un petit peu de la façon dont il nous invite à le faire, on serait hyper inondé de grâce. Je dis bien, de la façon dont il nous invite à le faire. Ça s'appelle l'espérance. De la façon dont il nous invite à le faire. Saint Paul nous le dit d'une façon très éclatante dans ses lettres aux Philippiens, mais avant d'en arriver là, je vais dire deux ou trois paroles de Saint Paul qui illuminent un peu ce dont je parle. Et c'est Romains 5:5. L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été semé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a déjà été donné. Nous l'avons. Après, c'est un travail du cœur. Parce que cœur, on en a tous. Ça, c'est clair. Mais la sensibilité du cœur doit être évangélisée. Et ce n'est pas impossible. C'est à fur et à mesure qu'on s'oriente vers ces chemins dont le Seigneur nous invite à approfondir, on découvre que notre cœur progressivement devient uni au mouvement du cœur de Dieu. Cette phrase n'est pas mienne, est d'une sainte bourguignonne qu'on a canonisée ça fait quelques mois. Elisabeth de la Trinité, était ma copine à Toulouse, no? qu'elle me disait, un jour j'étais dans une célébration, no? et une homélie, et j'ai eu la mauvaise idée de parler au milieu de l'homélie, no? de que j'avais une copine, quand j'étais séminariste à Toulouse, no? j'avais une copine qui m'a beaucoup aidé. No? Et alors, c'était Elisabeth de la Trinité, non? Et à la fin, et je lui expliquais qui était elle, Elisabeth de la Trinité, et à la fin de la messe, arrive une dame, toute affolée, non? Mon père, que vous ayez une copine étant séminariste, ça n'a pas le pardon de Dieu, non? Mais qu'en plus, vous ayez le culot de le dire, là, c'est le comble. Je dis, madame, elle est morte en 1905. Ah! Vous aurez pu me le dire. Elisabeth de la Trinité, dans son rapport à Jésus, disait que à travers toutes les nuits, il y a des nuits dans l'espérance, hein, à travers toutes les nuits, que je puisse m'unir à chacun des mouvements de ton cœur. Pourquoi? Parce que dans cette union, et on verra bien comment on fait ça, hein, dans cette union, progressivement, je trouve mon propre compte. Vrai paix. Et alors, il y a trois petits tableaux. Je ne vais pas vous expliquer, pour comprendre ce que le pape Benoît dit, ceux qui veulent travailler, qui sont des grands scientifiques, vous pouvez travailler le point 7 et le point 8, et le point 9 d'Espèce Salvi. Mais je ne vais pas vous compliquer la vie cet après-midi, simplement que vous sachiez que le pape insiste sur ça. Si on comprenait l'espérance comme la vertu de la route de ce qui va vers les promesses, qui les rejoint par le Seigneur en route, et que, troisième point, à fur et à mesure que je marche, je découvre qu'il se dévoile mon propre être, notre cœur ne serait pas perturbé et bloqué en route. Parce que les démons travaillent à défaire ça. Par exemple, si j'ai compris Sachet, et je vois que la joie de Sachet ne m'arrive pas, je décroche pas de la retraite parce qu'il faut sourire tout le temps. Non? Ça va, oui, ça va. On sent que ça vient pas d'être trop loin, mais bon, voilà, ça va. Mais on décroche intérieurement. Pourquoi on décroche? Parce qu'on ignore que ces merveilles de toucher Jésus et être touché par lui dans une rencontre personnelle n'est pas seulement que le Seigneur veut me faire des choses impossibles, c'est que le Seigneur veut me dévoiler pleinement ma vraie liberté et il a plus d'espérance que moi. Même si on ne peut pas dire que le Seigneur a l'espérance, parce que Dieu est amour, donc il n'y a qu'amour, et l'amour, il y a tout dedans, non? Mais le Seigneur attend plus que moi, de ma propre vie, qu'à fur et à mesure que je m'oriente vers lui, ces merveilles me rejoignent. Pourquoi? Alors, trois petits tableaux, d'une façon plus graphique, pour comprendre ce que le pape nous dit dans un langage un peu plus théologique. Il commence à parler, et la parole de Dieu, mais il commence à parler d'Hébreux 11:1, et après surtout d'Hébreux 10:36-39. Hypostasis, hyparconta, no? Et alors il explique un tas de choses que sont très intéressantes, que veut dire ça. Les biens que nous recevons en espérance, ce sont les biens que Dieu nous a donnés, que sont notre propre bien. Et j'espère que Monseigneur, s'il va nous expliquer le dernier collier qui a manifesté ce matin, la dernière colonne de droite, ça a commencé, j'ai regardé, hein? Ah, il est là-bas, non? J'ai regardé que ça commence par ser administrateur tordu. Je sais pas comment, quel est le mot, il y a un autre mot. L'intendant corrompu, non? Cet administrateur tordu, non? Que c'est très spécial. Parce que, à la fin, vous savez, l'administrateur tordu, ce que c'est? Ne savons bien rien. Bon, voilà. Alors, je vais pas lui piquer la prédication à Monseigneur, non? Mais, simplement des mots, hein. C'est très intéressant, ce type, hein, parce que c'est quelqu'un que, comme le chef lui demande compte, et il voit que tout est mal fichu, non? Alors il dit, avant qu'on me jette dehors, je vais me faire des amis avec l'argent d'un autre. Il y a celui qui devait 50 machins, il dit, tu écris 30, ben voilà, personne va savoir, hein. C'est comme le supermarché de ce matin, non? Ça, voilà. Après, à celui qui, mon petit, tu écris la moitié, non? À l'autre, et après, il dit, à la fin de la parabole, que le Seigneur a loué l'astuce de ce machin. Écoute, les entrepreneurs de ce monde, ils aimeraient pas trop que l'évangile soit si facile à faire. Hein? Mais si on suit l'explication, il y a une phrase qui est très belle de Saint-Luc, de Jésus, dans l'évangile de Saint-Luc, où il dit qu'à fur et à mesure que nous donnons aux autres un petit peu de l'argent gagné par un autre, nous trouvons notre propre bien. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Qu'en faisant miséricorde par le bien qu'un autre a fait pour nous, on se retrouve nous-mêmes. J'insiste sur ce point parce que l'unique façon de dépasser la carotte, c'est lui piétiner les pieds au diable, qui va nous faire croire que l'évangile, c'est une complication qui va nous produire une hernie. Vous savez un peu, une hernie, non? Si tu commences à vivre les béatitudes une après l'autre, etc., et à pardonner, et à tout ça, et tout ça, et tout ça, jusqu'au bout, tu vas finir un peu complètement, non? Écoute, je vais rester normal, non? Il fallait pas faire des grimaces, voyez? Je vais rester normal. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pour ça que, trois icônes rapides pour après entrer un peu davantage. Trois icônes pour comprendre ce mystère de l'espérance selon le pape Benoît. Une première icône, c'est Santa Ricole d'Avignon, vous connaissez pas, il fait la pub de ma paroisse, non, finalement. Hein. Alors, il y a un tableau au fond de l'église que tout le monde qui entre les voit, dans lequel il y a une espèce de cercueil noir, les apôtres qui regardent vers le cercueil noir, et ça représente, soi-disant, la dormition de la Vierge. Et après, on voit des nuages à eau où l'on trouve Marie couronnée par Jésus. En gros, hein, faites-vous l'idée, un cercueil noir, tous les apôtres sont en train de regarder, il n'y a rien, sauf tout noir, et puis on voit Marie embrassée par Jésus là-haut, ok? Sauf qu'il y a une petite chose bizarre, cet auteur avait lu l'encyclique de Benoît XVI, même si j'ai rencontré ça. Pourquoi? Il avait bien lu la lettre aux Hébreux. Pourquoi? Parce que au-dessous du noir, il y avait une lumière. Il y a une lumière bizarre, anachronique, ça, on comprend rien. Comme il y a un cercueil noir, et au-dessous, une lumière bizarre, qui n'a aucun sens, la lumière bizarre, sauf que le Messie voulait dire que si on traverse la nuit de ce qui ne va pas en nous avec la foi, on découvre qu'au plus profond de nous-mêmes, il y a déjà la lumière même de Dieu qui permettra que toutes ces choses de l'Évangile, au lieu de les vivre comme un machin qui nous donne de l'hernie, on découvre qu'on trouve profondément notre propre compte. Deuxième point, donc, à fur et à mesure que je me place en faisant confiance à la parole de Dieu dans l'espérance chrétienne, c'est pas un impossible qui m'est demandé, c'est une merveille qui va me rejoindre au plus profond de moi-même. Ça, c'est pour empêcher que le diable nous rend petits volontaristes avec un problème qui va avec, c'est qu'on décroche et on devient pessimiste, très pessimiste. Et le pape François, vous savez, il dit, des chrétiens avec la mine de vinaigre, non? On n'en a pas besoin. Non? Mais, oh, je ne vais pas voir la mine de vinaigre, je vais sourire. Sourire avec un cœur meurtri, tu verras ce que ça donne. Non? Pourquoi? Parce qu'effectivement, le Seigneur veut orienter que le chemin de l'espérance chrétienne permet que dans notre cœur, on accueille bien la miséricorde. Deuxième icône, c'est celui du conjoint que nous venons d'entendre. Jésus fait de moi un conjoint. Et à fur et à mesure que j'agis avec lui, je découvre que lui porte tous les poids. C'est l'icône de l'éléphant et la fourmi. Ces icônes, c'est pour c'est Benoît XVI, mais avec des images, non? Avec des bandes dessinées, non? Et alors, l'éléphant et la fourmi. Alors, il y a un éléphant et une fourmi qui courent ensemble par le désert. Donc, alors ça fait de la poussière, non? Une nuée incroyable de poussière, et la fourmi se tourne vers l'éléphant et lui dit, regarde, mec, quelle poussière nous levons, non? C'est ça, non? Regarde, non? Pas une fourmi comme ça et l'autre, non? Et c'est pas une bêtise, hein? Saint Thérèse de l'Enfant Jésus comprenait l'espérance de cette façon-là. Il disait, Jésus me commande, c'est un commandement, hein? Me commande d'aimer avec son même amour pour pouvoir aimer à moi. Et cela est vrai. Ça, c'est la structure de l'espérance chrétienne. C'est pas, oh, un jour, j'aimerai jusqu'au bout, je donnerai les quadruples comme sachet, et après, je vais me faire un hamburger, non? Dans la croix, non? Ça n'arrivera jamais comme ça. Par contre, en fait, quand je m'oriente avec Jésus, avec lui, son agir rejoint les miennes et je trouve des ailes à ma vie que je n'avais pas auparavant. Ça s'appelle béatitude. On verra bien un peu plus ce que ça veut vouloir dire. Et il y a un troisième élément qui fait partie, un troisième tableau, icône de l'espérance chrétienne, selon le pape Benoît XVI nous l'a fait comprendre, que c'est l'espérance vers laquelle on va. Et j'aime beaucoup l'image de l'icône comment on appelle cet homme-là, j'ai oublié, non? De Rembrandt, non? Du papa de l'enfant prodigue. Mais pourquoi cela est si important? Demain, on va nous l'expliquer, mais simplement un mot de ça, non? Parce que ce qui nous attend, c'est un Père capable de nous introduire progressivement dans son cœur de Père. Ce que l'enfant aîné ne comprenait pas. Il avait peur d'élargir son cœur à la dimension du cœur du Père. Il avait peur. Pourquoi a-t-on peur? Parce que si volontaristement je vais vouloir vivre cette miséricorde, elle ne m'arrive jamais. Mais si je me laisse embrasser par la main droite et la main gauche du Père, une est celle de la justice et l'autre est celle de la consolation, et toutes les deux, mon cœur progressivement entre dans ce que le pape François vous a dit dans tous les jubilés, et que j'imagine qu'une fois les jubilés dépassés, nous les vivons déjà. Quel était le slogan des jubilés qui était dans toute l'église avec ce tableau de Rupnik que nous connaissons par cœur? Qu'y avait-il écrit? Misericordes sicut pater. Oh! Je crois qu'on n'a pas encore intériorisé ce qu'on a lu, hein? Même si c'était le slogan de toutes les églises du monde, hein, parce que là, je l'ai vu en arabe écrit, en français, en espagnol, en anglais, en hollandais et en japonais, non? À Santa Rico, j'avais le machin en chinois, non? Voilà. Miséricorde sicut pater. Que veut-il dire ça? Veut dire que l'horizon de notre espérance, duquel il ne faut pas renoncer comme le fils aîné a renoncé, et que nous vivions pas une miséricorde bon marché, dont Monseigneur nous parlait ce matin, que c'est pas la miséricorde, mais une miséricorde qui croit à la croissance totale de l'autre. Une miséricorde de mémé ou de pépé, non? C'est pas encore la miséricorde de Dieu. Papi, non? Papi, pépé, mémé, tout ça, non? Vous voyez un peu, non? Ça, plus tu es, oh, tu pleures de voir l'enfant et tous les conneries qu'il fait te plaisent, non? Et moins tu es miséricordieux. Parce que la miséricorde, selon l'évangile, c'est un amour infini, mais infini. Même si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderai toujours la même confiance. Puisque je sais que cette multitude d'offenses, ce n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Ok? C'est vrai? Alors, accueillons. Parce qu'en accueillant, accueillons avec espérance. Parce qu'en accueillant, le Seigneur ne veut pas faire de nous tout simplement des gens que tout va bien. Veut nous introduire dans le sicut pater, autrement dit, avec le même amour dont le Père aime. Aspirer à ça, c'est essentiel. Et pas aspirer à ça, c'est la meilleure façon de ne pas être rejoint par l'amour du Père qui nous donne ça. L'amour du Père nous donne de mais avec son même amour. Ah, mais quelle espérance tu as? Bon, c'est une espérance un peu grande. C'est le chemin de l'humilité qui nous donne cette espérance. Plus je suis volontariste, plus je rabaisse l'espérance. Plus je suis humble et paradoxalement, plus je découvre que le Seigneur fait en moi ce que je ferai tout seul jamais. Attention à ça, hein. Si je veux pas être saint, si je veux pas vivre la communion totale comme le Père et le Fils s'aiment, si je veux pas essayer de vivre cet amour qui donne la vie pour l'autre, c'est sûr que j'ai un kilo de volontarisme, et c'est sûr aussi que, effectivement, j'aurais du mal à être rejoint par le Seigneur qui est en moi en train de m'amener vers ces merveilles. Autrement dit, la sainteté, ça paye bien. Je ne dis pas qu'il faut être saint, parce que si on prend, il faut être saint volontaristement, on est encore à côté de la plaque. Voyez ? Il faut être saint. J'arrive. Non, est-ce que c'est pas j'arrive ? Sinon, c'est en m'ouvrant le cœur à ce que le Seigneur me dit, ces merveilles me rejoignent. Alors, tout ça m'arrive toujours la même chose. C'est que cette focalisation de l'espérance dont je vous ai parlé, il y a une pédagogie qui se trouve dans l'Ancien Testament. C'était le titre d'aujourd'hui, les autres des conférences, sera l'espérance chrétienne dans le Nouveau Testament profondément perçue. Et la troisième sera par quel biais l'espérance peut grandir en nous surtout. Cet aspect du jugement bizarre que j'ai parlé tout à l'heure, mais que c'est une merveille énorme que Dieu veut nous faire. Alors, quelle est la voie de l'Ancien Testament pour nous faire apprendre l'espérance dont on parle et de la façon dont on parle? Une première voie, que c'est très 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 belle, est celle d'apprendre à accueillir le pardon. C'est l'image de la femme dont on nous parlait ce matin, que tout l'Ancien Testament est une école pour apprendre à recevoir. Pas seulement que Dieu nous aime, sinon comment se fait-il que j'accueille cet amour? Pas seulement qu'on me pardonne, mais comment se fait-il que j'accueille le pardon? Pas seulement que le Seigneur est tellement miséricordieux que transforme mon être un crapoul, non? C'est la première fois que j'entends ce mot, mais ce matin, ça m'est filé dans les oreilles, non? Ça, crapule, non? Ça doit être très mauvais, ça, non? Ça, voilà. Être un crapule, non? Comment j'ai fait de cela un lieu où jaillit une merveille d'amour dans ma vie? Cette école de l'Ancien Testament, c'est quelque chose que ça vaut la peine petit à petit de s'introduire, parce que une tendance très grande pour accueillir l'espérance, c'est le syndrome de Stockholm. Vous avez entendu parler de ça, non? Non? À certains, oui, certains, non, non? Voilà. C'est bien, comme ça, au moins, je ne suis pas seul, non? Voilà. Non, le syndrome de Stockholm, c'est qu'il y a des ravisseurs, en gros, je ne vais pas expliquer tout ça, hein? Ravisseurs, une femme saisie par des révolutionnaires qui l'ont ravi pendant des temps, et à fur et à mesure qu'elle était avec eux, après son papa a payé une fortune pour faire libérer, et une fois il paye la fortune, la fille ne veut pas sortir, en gros, parce qu'elle était tellement bien avec ses ravisseurs, non? Ce syndrome, on l'a trop souvent. Parce que on a payé vraiment pour transformer ma vie et libérer mon cœur. Et souvent, je reste avec ce syndrome de Stockholm, non? Dans lequel je dis, ben écoute, on n'est pas si mal que ça, hein. Oser des machins, ils disent que c'est la liberté de l'amour, du don de soi. Et oui, mais va voir, non? C'est ce que on disait ce matin, non? I alors, l'Ancien Testament est une école de transportes, de transformer ça. J'étais ému quand Monseigneur a commencé ce matin en parlant que la révélation de la miséricorde commence par la mise au monde de deux personnes. Jean-Baptiste et Jésus. Dieu fait miséricorde et envoie Jean-Baptiste à Zacharie. Dieu fait miséricorde et nous envoie les fils de Dieu. Parce que nous donner des personnes, ça veut dire que de la part de Dieu, la miséricorde n'est pas simplement un petit effacement, c'est un renouvellement total de mon être. Un renouvellement total de ma personne. Le pardon n'est pas simplement que on efface mes fautes, sinon que quelqu'un les prend sur lui. Et quand on passe du temps à comprendre comment lui, Isaïe 53, Isaïe, c'est le prophète d'Isaïe, le chapitre 53, on le lit toujours, la célébration de la Passion, le vendredi saint. Si vous avez fait le jeûne, peut-être vous ne l'entendez pas déjà parce que vous avez des visions à ce moment-là, non? Mais c'est un peu de blague, non? Mais Isaïe 53, ça renvoie à que quelqu'un a payé pour moi. Maintenant, notre orgueil ne peut pas supporter ça. Que quelqu'un paye pour moi maintenant et en permanence, le bienheureux Henri Newman, non? Que le pape Benoît avait canonisé, il disait la passion se passe en permanence, on est contemporain de cette passion. Pour moi, je vous assure, même si c'est que la première partie ce que je voulais vous donner, mais je vous donne cet exemple, les exemples illuminent la profondeur de la parole. Je me souviens à Étampes. Vous savez où se trouve Étampes ? Entre Orléans et Paris, non ? En route, à mi-chemin. Non ? Alors, j'ai prêché une retraite là-bas et ça fait déjà quelques années. Il y avait un tas de personnes qui étaient venues de différents, des jeunes la plupart, de différents lieux d'Europe, des Allemands, des Irlandais, des Anglais. Prêché, ça fait déjà un paquet d'années une retraite là-bas. Et vous savez que les personnes qui sont déplacées pour une retraite, non ? Et pour les prédicateurs, il n'y a pas pire que les gens, tu commences à parler, ça arrive, hein ? Heureusement que je ne vous vois pas comme ça maintenant, non ? Non, mais c'est vrai. Fais une retraite un jour, comme ça, des jours, dès qu'on commence à dire, nous, on est pressés, et ma mère nous appelle, non ? Et j'ai dit, c'est pas possible, tu fais venir des gens de partout pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, et les gens, au lieu de chauffer le cœur, ils chauffent la tête et la chaise, non ? Ça arrive, hein ? Et alors, là, l'avant-dernier jour, je dis, Seigneur, si tu existes, fais quelque chose, parce que ça va pas, non ? C'est vrai, hein? Et c'est historique, hein? Je dis avec un petit peu d'humour, mais vous verrez ce qu'il y a derrière, hein? C'est très important ça, vous verrez immédiatement, non? Parce que j'ai passé toute une nuit de prière, c'est pas possible demain, Seigneur, tu fais quelque chose parce que c'est pas possible, non? Une nuit de prière, 10h du soir, le Seigneur me dit, écoute, crois-tu que tu me crucifies? Pas dans les gros péchés de ta vie avant d'être consacré, non, que les gros machins, non, ça, non. Crois-tu que tu me crucifies dans les petites conneries quotidiennes? Autrement dit, quand tu éteins le réveil que tu avais mis pour la prière, pour dormir un petit peu, pour être un peu plus tranquille, ou quand tu maltraites l'autre et tu boudes un petit peu parce que tu en as marre, ou quand crois-tu que tu me crucifies? Non. Je disais que non. Non, pas possible. Écoute, les gros péchés, oui, mais ça, pas possible, non? Ça, dans la théologie, on appelle les péchés véniels, donc ouais, c'est pas grave, quoi. Crois-tu que tu me crucifies? Non. 11h du soir, minuit, 1h du matin, 2h du matin, 3h, non. Parce que même si je disais si extérieurement, je sentais que mon cœur disait que non, quoi, c'est pas possible, quoi. Hein? 4h du matin, oui, Seigneur, je crois ça. Bizarre. Ça, c'est la femme de ce matin, hein, celle qui avait. Je suis convaincu qu'eux, ils avaient péché beaucoup plus qu'elle. Hein? Mais elle était convaincue qu'elle avait fait mourir Jésus. Les jours que tu crois ça, presque immédiatement, est apparu une perception d'un amour incroyable de la valeur que Jésus donnait à chacun de mes instants. Mes instants ne lui sont pas indifférents du tout. Mes petits rien du tout de la journée ont une valeur pour Dieu incroyable. Mais Dieu ne regarde pas si de près. Non, Dieu pas seulement regarde de près, parfois le présenter comme l'œil, non? Et maintenant que nous sommes la génération de la miséricorde, avant il y avait l'œil de la justice, Dieu regardait tout les conneries qu'on faisait, non? Il y avait cette image-là, on s'est débarrassé de ça, et on est dans le Dieu de la miséricorde. Il regarde à peu près en général, non? Il regarde presque rien, non? Il dit tout est merveilleux, mes fils et mes filles, voilà, non? Non, non, c'est aux antipodes de ça, hein? Crois-tu que chacun des petits actes qui n'est pas en communion avec moi me blesse à mort? Non. Quand tu commences à dire oui, tu entrevois la valeur de l'amour de Dieu pour ta vie. Une valeur incroyable. Il donne la vie pour la mienne, vraiment. Pour ma sainteté, vraiment. Pour mon pardon, vraiment. Pour l'amour fraternel, vraiment. Pour la liberté des petits esclavages, pour faire de moi une personne qui aime au-delà des esclavages, vraiment. J'ai senti une paix et une joie tellement grande qu'après les jours et demi de retraite qui restaient, les gens sont partis tout sanctifiés. Jamais ils avaient fait une retraite pareille, non? Ils avaient oublié qu'ils avaient chauffé la chaise et la tête et les autres jours sans arrêt. Voyez? Mais c'est là, ce chemin, tout l'Ancien Testament est une école pour cet accueil. Parce que très souvent, on ne veut pas accepter la valeur de nos vies. Israël ne voulait pas accepter la valeur de sa vie pour Dieu. Et on le voit dans le prophète Ézéchiel. Ce qu'on voit à travers vous, Israël, cela c'est lumière des nations ou obscurité des nations. Encore aujourd'hui, ce que les gens voient du christianisme, ils le voient à travers nous. Et si les gens ont une idée du christianisme d'une espèce de morale un petit peu étrange, vous croyez pas qu'ils sont des philosophes tous fichus, mal fichus qui pensent ça? C'est ce qu'ils voient en nous, quoi. Parce que quand on voit la surabondance de l'amour, la valeur que le Seigneur donne à ma vie, qu'il se met à mes pieds parce qu'il valorise ma vie plus que moi-même, je commence à entrer dans un accueil qui transforme ma pauvre vie dans une vie qui a la saveur de la sienne. Ça s'appelle espérance chrétienne. Espérance parce que le Seigneur, elle est vraiment impliquée avec moi, beaucoup plus de ce que je peux penser. Et respirer cet air-là est ce qui permet que notre vie avance. Pas pour rester médiocre. La médiocrité, le premier qui souffre de la médiocrité, c'est moi-même. Combien de couples, la souffrance qu'on a que délite l'amour, c'est pas que l'autre ne m'aime pas, c'est que moi, je me sens tellement lâche que je projette la lâcheté partout. Je me sens tellement médiocre que je vois que l'autre n'est que médiocre. Je m'accepte tellement mal que je suis incapable d'accepter les faiblesses de l'autre. C'est dans l'accueil qu'apparaît la merveille de l'Évangile. J'arrête, c'est 17 heures, et il y a maintenant, je vais vous la présenter, Geneviève Vigne, que c'est une grande femme qui est au fond, qui va nous parler de la garde d'honneur. La garde d'honneur du Sacré-Cœur, je vous assure que c'est une grande merveille. Et moi, chaque fois que je viens à parler de Monial, je suis renouvelé dans ces merveilles d'un cœur dans lequel on découvre que Jésus est assoiffé d'antan qu'on vit pour lui. Il est assoiffé. On n'a pas un dieu non impliqué, un dieu assoiffé d'une heure au moins qu'on vit pour lui. Alors, Geneviève, à vous la parole.
Vous pouvez l'applaudir, hein, ce qu'il vient de dire, c'est merveilleux. Merci mon père. Je ne prendrai que quelques instants. Vous connaissez tous, bien sûr, le message de Pachel Monial, ce que Jésus a dit à Sainte Marguerite Marie. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Vous connaissez ça, hein? Est-ce que vous connaissez l'autre versant du message? Qu'est-ce qu'il a dit à Sainte Marguerite Marie? Qu'est-ce qu'il a